105 FM.
Sur Radio G tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de Radio G tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est en direct donc sur Radio G jusqu'à 21h pour vous parler des dernières actualités locales et internationales en termes de sport. On est donc le mardi 8 août et on va pouvoir donc commencer cette nouvelle émission de l'été en présentant ceux qui m'accompagnent aujourd'hui autour du studio. L'équipe est complète et même un peu plus avec... je vais commencer par ceux qui sont les titulaires de cette équipe. C'est Faustin qui est là à ma gauche. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah, ça va très bien, toujours... Toujours les vacances et c'est pas prêt d'être fini.
Oui, c'est vrai que...
Il reste quasiment un mois.
Il reste un mois, on profite. Hein. Exactement. T'as bien raison, puisqu'après il y a le bac qui arrive et là c'est une autre paire
c'est
de manches.
Marrant,
c'est beaucoup moins marrant. On en reparlera, mais t'es allé voir ce week-end le match du SCO, le premier match du SCO en Ligue 2. Avec cette défaite lors du derby 1-0. Tu nous en parleras un petit peu de l'ambiance, de ce qui s'est passé sur le terrain également. Donc voilà. Cédric est à ma droite. Comment ça va, Cédric?
Eh ben écoute, ça va nickel.
La forme?
Ouais.
Un bon petit week-end aussi?
Ouais, week-end e-sport.
E-sport, ok.
E-sport, ouais. Il y avait l'Evo, donc un des plus gros tournois sur le territoire américain.
Ok.
Donc, j'imagine à Las Vegas, c'est 9h de décalage horaire.
Ah oui.
Donc,
tu t'es couché tard, quoi.
Bah, pas tant que ça au final, parce que heureusement, il y avait l'air diffusion le matin, donc ça permet de rattraper ce qui était dans la nuit. C'était le week-end aussi du SummerSlam, donc c'était le samedi, ça a été un choix. C'était une bonne partie l'Evo. Après, on est passé sur la WWE. Grosse déception, ce show, enfin voilà. Ouais. Et puis bah dimanche Evo à fond parce que voilà c'était le dernier jour, c'était les grosses finales, c'était intéressant en termes de d'annonce aussi pour le futur de l'e-sport versus fighting.
Et bah très bien, un bon petit week-end.
Ouais. Et puis bah on a préparé. tranquillement aussi le match de l'équipe de France féminine d'aujourd'hui. Voilà.
Effectivement, on en reparlera avec cette belle victoire de l'équipe de France. Je vais présenter quelqu'un qui va nous rejoindre pour cette émission et peut-être même l'année prochaine. C'est Clément qui est avec nous. Salut Clément, comment ça va ?
Salut Alex, bah moi ça va super. Voilà, bonsoir tout le monde.
Toi, pour présenter peut-être un peu aux auditeurs, dis-nous un peu plus sur toi.
Alors, numéro de sécu, carte bleue, numéro de téléphone. Ah non, c'est pas ça.
Peut-être pas à ce point, mais voilà un peu ce que tu fais, voilà, quel âge t'as, etc.
Bah, je m'appelle Clément, du coup, je suis en seconde. Je passe en première.
Ouais.
Je pratique le football en club et puis bah, je suis à peu près à l'actualité sportive dans tous les domaines.
Voilà, donc,
quel club du coup ?
Avrier, là je bascule sur Montreuil-Juigné.
Oh, changement de chez le rival.
T'as vu, on a des infos du mercato local.
Oh là là, c'est
un joueur dans le studio.
C'est ça, un joueur de Lyon qui va chez Saint-Étienne, quoi. C'est un peu ça, quoi. Oui, et du coup, donc tu vois, tu vas pouvoir, tu es venu ici pour voilà parler de sport et donc un peu comme Faustin, te former un peu à la pratique de la radio. Donc, bah en tout cas, bienvenue dans Génération Sport. Merci. Tu vas pouvoir intervenir avec nous au fil des débats et au fil des sujets. Je vais présenter un petit peu le sommaire de l'émission. On va commencer par les infos locales. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on parlera principalement évidemment du match du SCO, ce fameux derby face à Laval, donc voilà, qui s'est mal terminé pour les SCOistes. Et puis on parlera un petit peu de l'UFAB, un petit peu aussi du SCO Handball. Je vais vous présenter un petit peu le programme qui attend les handballeurs angevins. Et puis au niveau international, on va faire un gros dossier sur la reprise de la Ligue 1 avec pas mal de choses à dire, parce que notre championnat va être peut-être un peu bousculé, notamment au moins sur le levier des journées, puisqu'il y en a plus que 34. On reviendra là-dessus, puis surtout sur les équipes qui vont nous intéresser cette saison. Et puis évidemment, on reviendra sur le match de l'équipe de France féminine, comme tu l'as dit Cédric, avec cette belle victoire 4-0 face au Maroc. Faustin, tu nous as préparé un petit récap de ce qui s'est passé cet été au niveau du basket, que ce soit avec l'équipe de France qui prépare la Coupe du Monde, mais aussi en NBA, la draft, la Summer League, tout ça. Et donc exactement, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. On reviendra un peu sur évidemment les autres infos, le cyclisme, les championnats du monde, le judo et les Masters de Budapest, mais aussi un petit peu avec le rugby, puisque le mondial commence dans un mois tout pile, le 8 septembre, et ce match inaugural face à Nouvelle-Zélande. Voilà, rien que ça pour commencer. Ça va être sympathique. On va commencer sans plus tarder avec le sport local et donc, comme je le disais, ce premier match en Ligue 2 de la saison 2023-2024 du SCO qui a donc été défait sur le terrain de Laval 1-0, but de Sam Saada à la 66e minute. Faustin, donc toi qui étais au match, qu'est-ce que t'as pensé ? On voit un petit peu que le score montrait de belles choses, mais ils ont pas su concrétiser leurs occasions.
Ouais, c'est vrai que j'avais l'impression quand même que ça manquait même d'envie de la plupart des joueurs sur le terrain. Où moi, j'étais dans le COP en juin et j'ai été du coup face au but, quasiment face au but. Et à un moment, je vois, ça m'a choqué vraiment cette image, Diony. On le lance dans la profondeur, il est à 10 cm de la balle, il a largement le temps de la voir, et il arrête complètement sa course et laisse filer la balle en 6 mètres, vraiment comme si il n'y avait pas d'envie. C'est ce qui m'a frappé, je pense, dans ce match, avec un manque de rythme, etc. Après, c'est des joueurs professionnels, mais bon, il faut peut-être un temps d'adaptation entre la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est peut-être ce qui leur a fait défaut. En plus, c'était un match un peu à enjeu, comme c'est le derby historique du Maine-et-Loire. Donc, voilà.
Et au niveau des petits jeunes qui sont rentrés, parce qu'on a vu, il y a pas mal de jeunes, notamment Courcoul, hein, qui est un très jeune joueur, qui a 16 ans seulement. 16 ans. Qu'est-ce que tu as pensé des jeunes aussi ? Il y avait Raoul Izoa, c'est ça, qui était titulaire notamment. Qu'est-ce que tu as pensé un peu des jeunes ? Baoya aussi, qui était titulaire.
Oui, c'est vrai. Surtout dans la rentrée, quand même, en deuxième mi-temps, il y avait eu le rythme était vraiment moins soutenu qu'en première mi-temps.
Ouais, en première mi-temps, c'était intéressant.
Ouais, il y a eu quelques occasions. En deuxième mi-temps, c'était tout mou, quand même. Mais son entrée et l'entrée des autres joueurs, quand même, ça a un peu revigoré l'équipe angevine. Même si, ça a pas suffi du tout, hein. Il y a quand même eu très peu d'occasions en deuxième mi-temps. Et c'est pas une entrée qui a été non plus fracassante et qui aurait pu faire changer le cours du match.
Ouais.
Mais à voir au fur et à mesure.
Moi, en tout cas, j'ai trouvé Baoya très intéressant. qui a provoqué, qui a été bien dans la percussion et qui s'est même procuré une belle occasion, notamment. Et par rapport à l'ambiance autour de ce match, puisque voilà, c'était au stade Francis Lebasserre à Laval. Donc pour expliquer un peu aux gens, il y a une tribune qui est posée un peu à côté des autres tribunes, ouais, pour les visiteurs. Et cette tribune était forcément pleine, pleine de supporters angevins. Et toi, donc, tu avais la chance d'être dans ce COP. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ambiance ?
Bah, c'était une bonne ambiance, je vais dire. Ça a fait du bruit quasiment tout le match. Bon, avec des chants parfois douteux, avec des belles insultes.
C'est une grosse rivalité, hein, on rappelle.
Exactement. Hein, mais... On entendait malheureusement pas trop les Lavallois en face. Du coup, je sais pas si eux nous ont insultés ou pas.
Bah, peut-être.
Au vu des doigts d'honneur, j'imagine que oui. mais non, en vrai, c'était sympa quand même. Ça reste bon enfant la plupart du match où voilà, tout le monde chante, ça saute sur les tribunes, etc. C'est marrant. Juste à la fin du match, pareil, quand en fait les tribunes à côté de la nôtre passent quand même pas loin. Genre, on a deux grillages qui nous séparent des gens qui sortent, ouais, du stade. Et du coup, là, pareil, ils nous faisaient des doigts d'honneur, donc on répondait, etc.
Oui, c'est ça.
C'était bon enfant quand même. C'est l'ambiance derby, quoi.
C'est ça, c'est l'ambiance derby, évidemment. Clément, tu as pu voir le match ou pas du tout?
Non, j'ai pas pu voir le match.
Mais qu'est-ce que tu attends de cette saison du SCO?
On verra bien. Peut-être que. Qu'on peut s'attendre à une petite surprise, pourquoi pas un top 5, mais je pense qu'il n'y a pas trop d'espoir là-dessus.
Ok, tu mises pas sur une montée du SCO en Ligue 1. Rien d'autre à rajouter, Faustin, sur ce match?
Non, il me semble que
non,
c'est bon.
Mais encourageant quand même ou un peu déceptif?
Un peu déceptif, je pense quand même.
Ouais, t'attendais peut-être à mieux. Ouais.
C'est Laval, quoi. C'est pas
Laval
pas...
qui s'est maintenu à la dernière journée, ouais, la saison dernière. Hein,
donc, c'est pas une grosse équipe de Ligue 2, donc j'aurais pu espérer mieux.
Ouais, c'est ça. On va dire que c'est un faux départ, mais voilà, on attend un petit peu mieux sur la suite. On va parler du coup maintenant d'un autre club angevin, c'est l'UFAB. Voilà, la reprise n'est pas encore déterminée, hein, pour les joueuses de Aurélie Bonan, mais il y a une petite jeune qui d'ailleurs a signé professionnel l'année dernière du côté de l'UFAB, qui a pu briller avec l'équipe de France. C'est Axel Merceron qui a été d'ailleurs sacrée championne d'Europe U20 avec justement cette équipe de France. Donc voilà, bravo à elle. Et elle va pouvoir revenir dans le groupe angevin avec donc plein de confiance, comme notamment d'autres joueuses des équipes de France jeunes, comme Léna Kahn ou encore Marine Dursus. Donc voilà, on a des angevines qui gagnent quelque chose cet été.
Ah, puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait un gros travail défensif,
ouais,
durant la finale. Et ça peut être très intéressant justement pour l'UFAM. Justement, on sait que des fois ça peut pêcher en défense, sur des retours, des choses comme ça.
Ou en tout cas, c'est ce que Aurélie Bonan veut avec,
voilà,
son équipe.
Voilà, en plus, oui.
On voit les effets du coup.
Bah, c'est ça. Là, c'est pas encore les effets, mais on voit que c'est une joueuse en tout cas dans son plan de
son profil.
Son profil, voilà. Et puis même pour le plan, on va dire, tactique de la saison à venir. Elle va sûrement marquer des points si elle fait ça régulièrement.
C'est ça.
Et il y aura sûrement une belle révélation de l'année.
Ouais.
Et puis peut-être des surprises très tôt, quoi.
Ouais. On espère un beau développement des jeunes l'UFAB avec. Marine Dursus. Ça peut être beau à voir dans les années qui suivent, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que, en tout cas, les joueuses formées au club, les jeunes en général, enfin, comme Marine Dursus et Lacan, elles viennent pas d'Angers, en fait, elles viennent notamment du Pôle France. Mais c'est intéressant de voir potentiellement une joueuse formée à l'UFAB qui peut exploser cette saison. Donc, on suivra ça, évidemment. Pas d'autres infos au niveau basket local, Faustin, tu me disais, c'est assez calme.
C'est assez creux, en ce moment. Les entraînements reprennent petit à petit, ouais, mais rien de plus.
Ok, très bien. Du côté du SCO handball maintenant, effectivement pas encore la reprise, elle est avant tout sur les entraînements. Les matchs amicaux vont bientôt commencer. D'ailleurs, dans un peu plus d'une semaine, il y aura un match à la salle du Haras contre Cesson-Rennes. Et puis quelques jours plus tard, il y aura un petit tournoi à 3 avec l'Anester et Saint-Cyr, toujours du côté de la salle du Haras. Et puis le 30 août, ce sera la reprise professionnelle avec ce premier tour de Coupe de France contre Toulouse, encore une fois à domicile. Donc voilà, ça va être intéressant pour les Angevins de se confronter à une équipe de Star League. Et puis enfin, le 8 septembre, on aura ce premier match de championnat contre Istres. Donc voilà pour le programme des emballeurs angevins. On va pouvoir continuer avec l'international. On vous l'a dit, l'actualité locale n'est pas très fournie, donc on va pouvoir enchaîner tout de suite. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé ce matin, enfin en tout cas ce midi plutôt, avec ce match entre l'équipe de France féminine et le Maroc, et donc ce parcours des Bleus, hein, qui va continuer jusqu'en quart de finale, grâce à des buts de Diani, Dali et un doublé de Le Sommer. Les joueuses d'Hervé Renard ont disposé tranquillement donc du Maroc en 8e, 4-0, pour rejoindre l'Australie au prochain tour. Alors faut savoir que les autres de la compétition ont d'ailleurs retrouvé la star de leur équipe, Sam Kerr, l'attaquante de Chelsea, qui était blessée au début de la compétition. Et parmi les favoris, il y a eu un autre gros morceau qui est tombé il y a quelques jours avec l'élimination des championnes du monde américaines contre la Suède. Et puis voilà, donc c'est un autre concurrent, hein, à la victoire finale qui s'en va après l'Allemagne, le Brésil, le Canada ou encore la Norvège. Donc il y a pas mal de surprises sur cette compétition. Messieurs, est-ce que vous avez pu suivre un peu des matchs pendant de l'équipe de France globalement pendant la Coupe du Monde?
Oh, j'ai pu voir mieux là les deux derniers matchs là.
Ouais.
Le dernier match, mine de rien, on a su rebondir parce que faut quand même parler du coup franc qu'on se prend au bout de 3 minutes.
Ah, contre le Panama.
Contre le Panama.
Incroyable.
Il est magnifique. Hein.
Ah, il est vraiment splendide.
Premier but pour
l'histoire
du Panama en Coupe du Monde. Enfin, mais il est magnifique. Derrière, on a su voilà se montrer. Il y avait des grosses imperfections parce que quand on a dominé une bonne partie de la première mi-temps, il y a eu du gros relâchement et c'est ce qui fait qu'il y a des buts qui ont été amenés bêtement derrière. Et là, aujourd'hui, je les ai trouvés quand même beaucoup plus sûrs. Je pense qu'il y a le côté aussi match coup près qui a joué. Le fait déjà de mettre les 3 buts. Ouais, en première mi-temps, ça a assuré. Ouais.
En quelques minutes, même pas 10 minutes.
Ouais, c'était rapide. Et puis...
En 20 minutes, les 3 buts.
Ouais. Comment?
En 20 minutes, les 3 buts.
On parle du Panama?
Ah, du Panama?
Non, tu parles du match d'aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, ça. Ouais. C'était pas 10 minutes.
22 minutes. À la 22e, ils ont marqué le 3e but.
Ouais, c'est okay. Mais ça a été bien contrôlé, du coup. Et c'est vrai qu'à 3-0, à la mi-temps, bon, la probabilité de se faire remonter, elle est un peu moindre. Et puis bon, vous voyez qu'il y avait quand même des grosses erreurs de défense, hein, du côté du Maroc. Mais on les sent peut-être un peu plus à l'aise maintenant que c'est les phases de finale. Et à voir. Prochain match, je pense qu'il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité par contre.
Voilà, c'est pas le même adversaire.
C'est parce que c'est pas forcément sur le terrain que ça va jouer, mais je pense avec l'ambiance dans les tribunes. Oui. Va falloir être fort dans les têtes et fort dans les jambes, quoi.
Ouais, enfin, en tout cas, pour revenir sur ce que je disais, c'est en l'espace de, on va dire, de 10 minutes, parce que 15e, 20e et 23e, voilà, les 3 buts de l'équipe de France. Les gars, vous avez pu voir un peu les matchs ou pas?
Ouais, bah, moi, là, le match, là, j'ai vu que la première mi-temps, parce que j'étais en famille, du coup, une fois 3-0, on était rassurés, on a coupé la télé. Mais, en gros, oui, ça, une grosse domination de la France. Bien mené, je pense, par Hervé Renard qui fait un gros taf à mon avis. On avait vu sa causerie contre
le Brésil.
Contre le Brésil, voilà, où il prend position, quoi. Il montre que c'est lui le patron et que les joueuses doivent lui obéir si elles veulent gagner. Et je pense que c'est ce qu'elles font et c'est ce qui marche très bien.
Clément, t'en as pensé quoi, toi?
Moi, il y a juste le match du Brésil que j'ai pas vu. Après, on voit quand même une grosse progression, depuis le début de la Coupe du Monde, parce que le premier match contre la Jamaïque, on s'est dit, oula, qu'est-ce que ça va donner?
Ouais.
Et puis de voir les voir gagner 4-0 comme ça, en maîtrisant le match, c'est rassurant. Même s'il y a un petit relâchement souvent en deuxième mi-temps. Enfin, j'ai trouvé aujourd'hui encore un relâchement en deuxième mi-temps, même si elles ont quand même su gérer. Je pense que elles vont encore monter en progression et je pense que c'est de bonne augure pour la suite.
Ouais, on va suivre ça évidemment le parcours. Ouais.
Par contre, il va falloir se méfier, je pense, des Suédoises. C'est pas là.
Attends, des Australiennes du coup.
Non, mais pour la suite de la compétition.
En tout cas, on n'est pas dans leur partie de tableau, donc ce sera en finale si on les joue.
Ouais, mais enfin c'est un gros outsider, je pense.
Ouais, et notamment on jouera peut-être en demi-finale si on passe. l'Angleterre qui s'est qualifiée in extremis contre le Nigeria. Et puis, sinon, bah voilà, en finale, potentiellement, comme tu disais, la Suède. Le Japon est encore en lice.
Le Japon aussi, ouais.
Et il en manque un.
La Colombie, je
Colombie, crois. Ce sera Angleterre. Donc, ce sera soit Colombie, soit Angleterre. Ouais. Colombie qui est une vraie bonne surprise dans cette Coupe du Monde. Et puis, de l'autre côté du tableau, on a donc, comme on le disait, le Japon tombeur de la Norvège qui jouera donc la Suède, donc ce sera un très beau match, et l'Espagne contre les Pays-Bas. Voilà, les Pays-Bas qui ont joué, on rappelle, la dernière finale de Coupe du Monde féminine en 2019. Donc ça va être intéressant à suivre. Et puis l'Espagne qui, on le rappelle, notamment avait dans ses rangs Alexia Putellas, qui est double ballon d'or en titre, qui n'est pas disponible sur ce tournoi. Et puis il y a pas mal de joueuses aussi qui ont fait des grèves, qui ont boycotté l'équipe. Donc on ne sait pas si c'est une équipe d'Espagne en pleine possession de ses moyens, on va dire. Donc voilà.
En tout cas... Ouais, c'est de quand même une belle saison, enfin on va dire une belle année pour le football marocain, mine de rien.
Oui, c'est
parce
vrai.
Que entre la Coupe du Monde, il y avait tout juste 8 mois. Le match contre l'équipe de France.
C'est ça, la demi-finale.
La demi-finale, voilà. Et là, voilà, les filles aussi qui performent de leur côté, qui montent aussi. C'est intéressant.
Et on rappelle, c'était la première Coupe du Monde de l'histoire, Coupe du Monde féminine de l'histoire du Maroc. Donc c'était et donc elles ont sorti donc l'Allemagne notamment en poule. Même si elles ont perdu justement ce premier match 6-0, elles perdent 6-0 le premier match et elles arrivent à gagner après contre. Alors j'ai plus le nom des autres équipes, mais notamment contre
la Corée du Sud, je crois.
Voilà, la Corée du Sud et donc contre la Colombie sur le dernier match. Et l'Allemagne qui a fait nul contre la Corée du Sud justement. Voilà, ça va être c'est une Coupe du Monde intéressante avec des surprises. Donc on va suivre ça et peut-être que l'équipe de France pourra avoir un beau parcours jusqu'à la fin. On leur souhaite en tout cas d'aller jusqu'au bout.
Il va passer cette marche, je pense, là contre l'Australie.
C'est ça, parce que elles ont jamais fait trois derniers carrés en Coupe du Monde.
Je crois que c'est demi grand max, et je suis pas sûr.
Non, ouais, je crois pas.
Ouais, je crois que
demi c'est en Coupe d'Europe alors. Mais
oui, c'est ça. L'année dernière demi-finale contre l'Allemagne. Donc voilà. Mais après, forcément, en Australie, ça va être là-bas. Hein. Ça va être chez elle, j'ai envie de dire. Je crois que c'est du côté de Sydney, donc. Donc ça va être tendu, mais on y croit. Donc ce sera à 9h samedi prochain. Donc voilà, soyez présents devant votre télé, à part si vous travaillez évidemment, pour supporter l'équipe de France. On va faire une petite pause et on reprendra pour reparler de football avec la Ligue 1 qui reprend ce week-end. On va s'écouter SDM et son titre Mister Ocho et on se retrouve juste après.
Je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste, la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés. Mais je fais comment quand les aînés, c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, pour tout, personne m'a parrainé. SDM, sans moi 8. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. SDM, sans moi 8. Je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. Après les autres, je ne suis qu'un air. A écouter mes profs, proto la vie d'SDM, c'était pas ça. A écouter mes profs, j'allais finir par terre en manque de ma PSA. Mais leur rêve s'est arrêté, maintenant je fais des ronds, chaque leur salaire tend de la PSA. Je les baisse, demande aux autres faire tu le saches. Les fakes, devant l'OPJ que j'ai nié les faits. J'ai dit au ciel tout ce que je veux, l'as de billets, je voulais toucher. C'est où le bonheur, moi-même à pied, j'y vais. Bonheur, richesse, je veux tout. Je me suis couché tard, le veto. Chaîne la cache, je suis intraitable, j'ai le veto. Quand t'es, je laisse pas de traces sur le métal. Poto, t'entends pas quand tu te la détails. Ya, ya, ya. Des fois, je suis grave indécis. J'avais pas tal dans la nuit, c'est le chétan qui m'a amené dans un. J'ai grave avancé, dans la rue, je suis grave attaché. Maintenant, c'est moi le grand qui vous flux, les jeunes à bosser. Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste, la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés. Mais je fais comment quand les aînés, c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, pour tout, personne m'a parrainé. SDM, sans moi 8. Je suis tout
tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. SDM sans moi 8, je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. Après les autres, je ne suis qu'un hit. Dans la ciudad. Tout seul, je me suis fait avec mes gars dans la ciudad. Maintenant ça va, je veux plus de la vie d'avant. Et des fois je pense à la mort, je pense à mon feat avec Biggie Tupac. Parano, je vois des ennemis tout part. J'ai plus à regretter quand le coup part. Eh, la détente, on charbonnait quand on séchait les cols. Type on avait déjà la menthe à l'élite. C'est pas la prison qui va nous arrêter, c'est la mort ou la femme qui m'a allaité. Allez, je suis un mec du parking, mec de l'allée. Je fais du mal pour mon but, je le fais à l'aise. Mais quand j'y reprends, je suis mal à l'aise. Ya 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 ya. Des fois je suis grave indécis. J'avais pas tal dans la nuit, c'est le chétan qui m'a amené danser. J'ai grave avancé, à la rue j'suis grave attaché. Maintenant c'est moi le grand qui influence les jeunes à bosser. Malheureusement je sais pas faire semblant d'aimer. L'air aux autres, ça fait longtemps j'abandonnais. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux j'suis qu'un artiste, la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés. Mais j'fais comment quand les aînés c'est des aînés. J'les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street pourtant personne m'a parrainé. SDM sans moi 8.
C'était SDM et son titre Mister Ocho. On est donc toujours sur Radio G 100.5 FM ou bien sur le site internet www.radio-g.fr. Je l'ai raté alors que d'habitude je le fais parfaitement bien. C'est vraiment décevant.
Et apparemment ça passe dans le Cantal.
Ça passe dans le Cantal ?
Ouais.
Mais non.
Si, je te jure.
Bah, peut-être pas le 101.5 FM.
Non, mais sur Internet. Mais,
bien sûr, évidemment. On nous écoute du Cantal, c'est ça que
ah,
tu veux dire?
Ah, ouais, ouais, apparemment.
Ah, bah, écoutez, bisous au Cantal, ou je sais pas comment on dit. En tout cas, aux Auvergnats. Parce
que aux Auvergnats,
ça
ouais,
fait partie
c'est
de l'Auvergne. Donc voilà, merci de nous écouter, en tout cas. On est de retour donc dans.
Je dirais même plus précisément du côté de Murat.
Ok, donc c'est plus précis.
Voilà.
T'as des infos.
On a géolocalisé.
Ok. Très bien. Donc, merci d'être avec nous donc, dans Génération Sport. On reprend avec, on reste sur le football avec la Ligue 1 et cette première journée qui va se dérouler ce week-end avec un premier beau match entre Lille et Nice vendredi. Puis après, on aura Paris-Lorient le samedi et l'affiche du dimanche soir, ce sera Strasbourg Olympique Lyonnais. Donc, pour rappeler un petit peu ce qui va se passer, ce qui va changer sur cette saison, on aura un championnat à 18, donc avec 34 journées seulement, et 9 matchs, donc avec un match du multiplex qui saute. On n'aura plus que 3 matchs sur l'horaire de 15h le dimanche. Et puis, on aura aussi une place en Europe qui sera supplémentaire, donc avec 3 qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Un qui fera les barrages et comme aujourd'hui donc deux qui iront en Ligue Europa et un en Ligue Europa Conférence. Alors ce qu'il faut dire aussi sur cette nouvelle saison de Ligue 1, c'est qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux coachs, notamment quelques entraîneurs un peu plus modernes comme du côté de Toulouse ou du côté de Nice. Et puis on va un peu revenir après sur les autres équipes rapidement. Est-ce que déjà vous êtes un peu hypé par le retour de la Ligue 1 là avec tout ce qui arrive et potentiellement ce championnat 18, la Coupe d'Europe, etc.
Bah effectivement pas plus que ça, tu vois.
Ouais.
Depuis qu'il y a plus le SCO, je pense que je vais moins suivre que l'année okay. précédente. Je vais plus suivre la Ligue 2.
Bah, c'est sûr que ça va faire bizarre, parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Je crois 7 ou 8 saisons.
Je crois que c'est de mémoire.
Donc, c'est forcément, ça va faire bizarre de plus voir le SCO en Ligue 1.
Ouais, ça a plus une équipe à supporter vraiment avec des matchs intéressants. Enfin, si, les matchs sont intéressants, c'est ce que je voulais dire, mais.
Et puis, tu suivras en Ligue 2.
Oui, voilà, c'est. Bon, dans des stades moins beaux avec des.
Oui, forcément, à Francis Lebasser, voilà.
Mais ouais, non, sinon, il y a quand même quelques équipes qui ont fait un beau mercato et d'autres un peu moins.
Ouais.
Le PSG, pour en parler vite fait, si on développera après, je sais pas comment dire s'il est bien ou pas leur mercato en fait.
Bah déjà, il est pas fini, donc tout peut se passer encore, donc ça va être intéressant.
Il s'est passé des choses étranges quand même.
Ouais.
Mais sinon, Marseille, on en parlait avant l'émission, moi je trouve qu'ils ont fait un super mercato.
C'est ça,
et
ouais.
Ils ont une équipe qui est assez intéressante.
Il y a le problème de la CAN, par contre.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains, justement, dans leur équipe. Et je pense que quand la CAN va arriver, ça va être un peu compliqué pour Marseille, même si on verra bien.
Il y a surtout le problème, c'est de savoir s'ils vont jouer l'Europe.
Oui, c'est ça. Enfin, ils vont jouer l'Europe. ils vont pas jouer peut-être la même compétition. On rappelle demain soir, donc match à 20h au Panathinaikos. L'ancien club de Djibril Cissé notamment. C'est vrai que c'est ce troisième tour préliminaire et puis après il y aurait les barrages soit contre Braga soit contre un club serbe dont j'ai plus
le nom. Il y a encore les barrages derrière.
Ouais, il y a donc quatre matchs.
Je comprends plus rien, leur système de qualification.
Quatre matchs de tour à passer pour l'OM. Donc voilà, c'est le premier match demain à 20h en Grèce. On commence à en parler, on va pouvoir aborder le sujet. Je vais commencer par le PSG, on va descendre un peu comme ça. On a appris notamment hier que Neymar voulait partir du PSG. On sait que le PSG veut se débarrasser aussi d'Mbappé. On sait qu'ils ont perdu Messi. On sait que le mercato pour l'instant c'est Ugarte, Asensio, Kanginli, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé quand on approche. Skriniar ou Lucas Hernandez. Donc voilà, est-ce que le PSG, selon vous, s'affaiblit un petit peu? Est-ce qu'ils pourront peut-être être challengés cette année, selon vous?
Quand même, tu perds Messi, Mbappé, Neymar, t'es forcément affaibli, ouais. Hein, je pense. Hein. C'est un trio d'attaque rêvé par tellement de clubs. C'est sur le papier, c'est peut-être le trio d'attaque qui fait le plus peur d'Europe. Donc oui. Après, c'était sur le papier hein, parce que. On l'a bien vu en Ligue des Champions, etc. Ça fait pas forcément mouche. Mais enfin bref, je pense qu'ils s'affaiblissent plus qu'ils se renforcent quand même.
Ouais.
Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas forcément comblé les trous.
Ouais.
Ou en tout cas, pas encore.
Après, là, je pense qu'ils sont plus en train de créer un projet sur le long terme, dans le sens où ils cherchent des jeunes joueurs qui promettent, comme Colomani, même s'ils sont, c'est quand même, ils ont de l'expérience maintenant, mais c'est quand même des joueurs qui ont un avenir, comparé à Messi qui était sur la fin de carrière, Neymar qui est aussi, même s'il est encore assez jeune, pas loin de la fin de carrière, peut-être qu'ils sont en train de créer un projet plus dans le long terme, avec peut-être moins de stars, je sais pas, je me dis ça aussi.
Ouais, une petite restructuration du projet.
Ouais, c'est ça.
Moins d'ego, moins de gros salaires.
C'est ça.
Toi, c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses? Je vois ta mine déconfite.
Non, mais ce club,
c'est une grande blague.
C'est une grande blague, Stanley. Enfin, ils voient qu'une chose, c'est argent.
Ouais.
Argent. Il n'y a pas de projet. Il n'y a plus de projet à Paris.
Et avant, c'était on dépense de l'argent. On essaie d'économiser.
Ouais. Là, tu regardes, Stanley, c'est. Ils ont fait exprès de re-signer tout le monde avec de belles promesses. Pour vendre tout le monde. Let's go.
Ouais, c'est ça.
Verratti qui part. Il a re-signé, je sais plus, je crois 2 ans. Ou un truc comme
enfin,
ça.
Verratti est pas parti, mais il y a des rumeurs, effectivement.
Si, il est parti, normalement.
Non, c'est pas officiel. Il y a des rumeurs insistantes, mais pour l'instant, il est pas parti.
Ouais, faut bon.
Verratti. Mais je vois l'idée, parce qu'il y a aussi Marquinhos, qui a re-signé il y a pas longtemps.
Pareil.
Et il y a aussi des rumeurs. Mbappé.
Mbappé.
Il y a moins d'un an.
Il voulait le refaire signer. Juste pour leur vendre derrière.
Neymar,
il a re-signé pareil. Ouais.
Là, contrat de 6 ans quand même.
Il fait partie des...
Des indésirables.
Enfin,
lui, il veut partir en tout cas.
Ouais. Soi-disant qu'il a été choqué par la réaction des supporters.
Bah, après, c'est vrai que, ils sont...
Non, mais en soi, oui. Non, mais je peux... Que ça, il est dérangé, mais dire que jusque-là qu'il a été choqué... Dans ce cas-là, tu le signalais dès la fin de la saison. Ça ne l'a pas dérangé pour repartir au Brésil et se mettre bien malgré sa blessure, tu vois ce que je veux dire? Il parle souvent quand même de retourner au Barça. Donc voilà. Là, ils sont en train de faire une grosse connerie avec Mbappé.
Ouais.
Clairement.
Pour toi, ils n'auraient pas dû.
Mais le joueur est dans son droit. Le joueur est dans son droit. Il n'a pas. S'il n'a pas envie de re-signer pour faire gagner de l'argent au PSG. On sait quand même que le PSG, il a fait un petit peu à l'envers avec des belles promesses pendant plusieurs années. Je comprends qu'à un moment, le joueur, il dise, basta, quoi.
Ouais.
Et là, par contre, ce qui va se passer, c'est que s'ils le font pas jouer, je suis pas sûr qu'avec l'équipe qu'ils ont actuellement, ça va passer. Hein.
Non, mais surtout, ça va durer longtemps, ouais.
Est-ce qu'à
un moment donné, ils vont pas arrêter de pédaler et dire, il est là, autant le faire jouer, quoi.
Logiquement,
ils vont pas le faire.
Ouais.
Logiquement, ils ont pas le choix. Hein.
À un moment donné, ouais, peut-être que voilà.
Et quand il sera là,
on va lui dire.
Faut pas oublier qu'avec Messi, ils ont perdu plus d'argent qu'ils en ont gagné. Hein.
Oui, potentiellement. Ouais,
parce que on voit clairement que Messi, les 2 ans à Paris, c'est confirmé. Hein, c'était du foutage de gueule.
Oui, c'était pour faire passer le temps.
Ouais. Tu sens que derrière, en fait, c'est le montage financier pour aller à Miami, qui a dû foirer et du coup il avait plus de club. Et comme on sait que aussi en Espagne ça lui chauffait un peu au cul
le fisc, ouais.
Pour le fisc, bizarrement ça tombait bien ce transfert là. Donc parce que là quand on voit, alors bon, on parle souvent de niveau de Fédé, mais là en ce moment c'est limite on lui dévale le tapis pendant les matchs en MLS là.
Ah oui, c'est
Il met deux coups francs en quatre matchs alors qu'il en a mis sur deux ans à Paris.
Mais même tu regardes l'arbitrage, il va dans son sens, enfin c'est
il est protégé.
C'est infernal, enfin c'est tu vois qu'en fait le mec c'est un gros magouilleur sur le terrain quoi. On le savait déjà hein, à l'époque du Barça, c'était déjà un peu ça. Mais dès qu'il a en fait une garde pour le protéger, bah c'est vas-y. À Paris, bah il avait pas mot surtout.
C'est ça.
On l'a senti. Hein.
Bah il disait qu'il était pas heureux.
Mais bon.
Sur le Paris Saint-Germain, donc on est un peu tous d'accord pour dire que pour l'instant ça s'affaiblit. En tout cas, à voir si Neymar et Mbappé s'en vont. Parmi les équipes qui peuvent les challenger, alors donc on a parlé de Marseille, mais on pourrait aussi citer Rennes notamment. Ou peut-être une autre équipe, hein. Dites-moi, est-ce qu'il y a des équipes que vous voyez un petit peu challenger le PSG, aller les chercher sur le titre ou sur une deuxième place, dites-moi.
Moi, je vois bien, pourquoi pas Lens une deuxième fois.
Ouais, ok.
Après, même s'ils sont en train de perdre, ils ont perdu quand même leurs deux gros joueurs avec Openda et Fofana. Je me dis que pourquoi pas, à chaque fois, ils nous sortent des joueurs qui nous surprennent un petit peu. Peut-être que ça peut encore leur refaire une autre saison de plus. En plus, il y a la Ligue des Champions cette année pour Lens.
Là, c'est peut-être bien. Ce qui peut faire indirectement mal à... Parce que je pense que Lens va la jouer vraiment à fond.
Ouais.
Voilà, c'est,
moi, je les vois faire
un truc. Ils seront pas forcément favoris, c'est sûr, quel que soit le groupe. De toute façon, je crois qu'ils sont dans le quatrième chapeau.
Ouais, quatrième chapeau.
C'est ça.
Mais en vrai, il y a peut-être. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose.
Après, ils peuvent, je pense, aller légitimement peut-être aller chercher comme objectif sur la troisième place.
Ouais.
Et en fonction du groupe.
C'est ça, en fonction du groupe, pourquoi pas.
Parce que le problème, c'est qu'il faut pas qu'ils se grillent en championnat, c'est deux années là où ils ont même trois.
Ouais.
Où il y a quand même eu du bon football de proposer. C'est vrai qu'ils ont perdu leur pièce maîtresse là. Va falloir un petit peu changer de ça. C'est pas non plus évident comme chantier à cet endroit-là où c'était.
Mais en tout cas,
le projet, je pense qu'il va être encore séduisant. Ouais.
C'est ça. Et puis surtout, le mercato n'est pas terminé. Ils veulent recruter en attaque notamment.
Oui.
C'est pas encore précis sur les profils, mais en tout cas, pour l'instant.
Et puis bon, l'argent des transferts qu'ils ont eu, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, je pense que ça va être
même plus du côté de Leipzig.
Leipzig aussi,
45 millions, je crois, sur Openda.
Mais voilà, je pense, c'est un club qui a quand même une histoire, avec l'argent qu'on a perdu beaucoup. Mais qui sait aussi
investir
et qui a appris de ses erreurs. Donc, je pense qu'ils vont peut-être privilégier une piste, peut-être justement à la jeunesse ou un truc comme ça, et un deuxième joueur un peu plus d'expérience pour stabiliser un peu cette équipe.
Et c'est anecdotique, mais ils ont battu Manchester United cette semaine.
Ah non, ils ont perdu du coup.
Ils ont accroché. Ouais.
C'est ça. Il y a eu 3-1 et très beau but de Sotoka du milieu de terrain.
C'est ça.
Donc effectivement cette semaine à Old Trafford. Faustin, du coup tu cherchais, est-ce que t'as trouvé une équipe qui pourrait au moins top 2, au moins deuxième place?
Ouais, moi j'irais plus sur Rennes, tu vois.
Ok, ouais, Rennes.
Parce que ils ont été renforcés par Ludovic Blas.
C'est ça.
Qui vit en traître en plus maintenant. J'ai hâte de le revoir jouer à Nantes.
Bah lui, il a beaucoup la Bretagne. Il a fait Guingamp, Nantes et Rennes. Donc.
Ouais, et là, j'ai vu
attention, toi, tu ouvres le débat Nantes en Bretagne ou pas là. Attention avec tes propos.
Il y a un derby d'entraîne. Ça s'appelle le derby de la Bretagne.
Les Nantais ont l'air en colère contre Ludovic. Parce que là, c'est comme un coup de poignard dans le dos, je crois.
Donc Enzo Lefebvre, il y a peut-être Nemanja Matić, l'ancien de United, qui pourrait venir aussi du côté de Rennes, donc ça va être intéressant. Rennes commence à avoir un projet intéressant. Cédric, toi, comme équipe, on va dire top 2, tu verrais qui pour challenger le PSG? Ou pour être juste deuxième?
Je dirais au vu du mercato, Marseille, il a logiquement, sur le papier en tout cas,
un très bel effectif.
Après, ça va tellement se battre, je pense encore cette année pour la relégation, qu'on n'est pas à l'abri, que ça fasse un peu le yo-yo et que, bah, allez, à la 10e journée, on n'aura pas forcément déjà un classement qui sera tout à fait clair. Donc,
oui, il peut se passer beaucoup de choses.
Je pense que la saison est longue. Ça va bouger, ouais.
Il y a des
équipes comme Lorient, voilà, qui peuvent faire la surprise en début de saison jusqu'au titre de champion d'automne.
Comme ils l'ont fait un peu.
Voilà, qui peuvent être des très bons outsiders. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui font sûrement rythmer le début de la saison.
Justement, pour te faire la transition, je me posais la question, qui seront pour vous les équipes un peu surprises de cette saison? Moi, je pense à notamment Reims et Strasbourg qui peuvent faire quelque chose. Reims qui fait un très bon mercato, et puis Strasbourg qui a été racheté par Chelsea et qui potentiellement a eu des très grosses recrues qui sont venues. On parlera pas dans cette émission pour l'instant de la multipropriété, peut-être qu'on fera un débat ou une émission un jour dessus sur la multipropriété de club, qui est quand même un truc qui peut comment dire, ruiner le football, on peut dire ça comme ça, Cédric.
Actuellement pour Strasbourg, ça peut être intéressant.
Mais moi ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'ils vont, en fait, un peu comme Troyes, ils vont pas pouvoir jouer l'Europe, dans le sens où ils sont sous le même propriétaire.
C'est ça. Après, ouais, c'est
parce que l'UEFA interdit au club du même propriétaire de ne pas jouer les mêmes compétitions.
Ouais. Bon, sous des raisons de possibilité de truiter et d'arranger les matchs. Bon.
Bon, bref,
c'est pas réellement de ça. Voilà.
En tout cas, au niveau des mercatos des clubs, on va dire moyens, moi j'aime beaucoup les mercatos de Reims et Strasbourg, donc je les vois, pourquoi pas, un de ces deux clubs faire une surprise. Je sais pas s'il y aura une place européenne à la fin, mais je vois pourquoi pas ces deux équipes-là. Et vous, les gars, vous avez d'autres équipes en tête?
Clermont,
ouais.
Qui, cette année, du coup, a fait 7e ou 8e.
Ouais, ils ont fait le top 10 en tout cas.
Ouais. Et franchement, ça m'a agréablement surpris, et j'aimerais bien les revoir dans le top 10 pour cette année.
Pour la dernière année de Gastien.
Voilà.
Faustin, t'as une équipe en tête?
Bah, j'avais la même, Clermont aussi. C'est ce que j'avais en tête.
Cédric?
Moi, ce que je note, c'est qu'il n'y a personne qui a cité Lyon pour l'instant.
C'est pas une équipe surprise. Justement, je voulais parler après des équipes qui...
Cette année, ça serait une surprise. Hein.
De les voir
remonter comme ça.
Ouais, ce serait un podium qui serait une surprise, peut-être.
Ah, même au vu des saisons qu'ils ont fait et de la préparation.
Même une place européenne.
Ah, tu peux les mettre, moi, dans les surprises, hein, je pense. Hein.
Ah ouais.
Parti comme c'est ça, parti, avec tout ce qui entoure le club, l'entourage de la masse salariale, tout ça, tu vois, c'est Laurent Blanc, c'est pas trop déjà s'il va rester si longtemps que ça. Enfin, ça parle déjà de deadline, tu vois. Donc,
ouais, c'est ça.
C'est s'il y a un gros électrochoc en début de saison, je pense que ça peut être une surprise.
Et au niveau des déceptions, est-ce que je parlais de Lyon. Est-ce que Lyon peut nous décevoir? Je pense peut-être à Nice, le projet Neos qui prend un peu du plomb dans l'aile un peu au fil des années.
Ouais, Nice, on commence à être habitué, hein. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui peuvent décevoir un peu?
Moi, à la fois pour Marseille, je suis hypé parce que l'équipe me tente, mais à la fois j'ai un peu peur quand même parce que c'est plein de nouveaux joueurs qui vont devoir apprendre à jouer ensemble et en une saison.
C'est un peu la continuité à Marseille en ce moment de changer beaucoup de joueurs.
Ouais, c'est ça. Et du coup, sur cette saison, faut peut-être pas attendre direct le titre. Top 1, remplacer le PSG. Peut-être pas direct cette saison, c'est là où ça peut décevoir.
Et puis, pour moi aussi, il y a la CAN qui va jouer une grande partie. Sans la saison de Marseille aussi.
Et puis sur d'autres clubs de Ligue 1.
Oui.
Sur le bas du classement, au niveau de, si vous deviez faire un pronostic sur deux équipes qui descendent, plus potentiellement un barragiste, vous diriez qui en se mouillant un peu?
Allez, moi j'irais sur Nantes et Reims.
Nantes et Reims.
Ouais.
Ok, tu vois pas du tout Reims.
Non, je pense pas que Reims va faire un grand éclat cette saison.
Ok.
J'avais oublié de citer aussi une équipe qui pourrait surprendre cette année, le Havre. Moi, je les verrais bien me surprendre, et enfin un promu qui nous fait une belle épopée, on va dire ça.
Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, le projet du Havre est intéressant. Ouais.
Et donc pour
la relégation,
j'aimerais bien Nantes. Hein, on va passer.
Ouais.
Et un deuxième club. Franchement, j'ai pas.
Ouais, Metz pour l'ascenseur, ouais, encore une fois.
C'est vrai.
Ils sont habitués. C'est vrai que t'as deux équipes qui te convainquent pas pour cette année?
Franchement, je pense une des deux montées. Ça, c'est sûr.
Comment ça, une des deux montées?
Bah, de Ligue 2.
Ah oui, ok. Un des deux promus, ouais. Metz ou ouais. Le Havre.
Ou. Et après, Nantes, Toulouse, et ça peut être compliqué. Toulouse, changement d'entraîneur, je sais pas réellement si ça va.
Et Coupe d'Europe pour Toulouse.
Ouais, Coupe d'Europe, ça aussi, pareil. Est-ce qu'ils, je pense pas qu'ils aient forcément l'effectif pour l'instant. Donc,
bon, on est tout d'accord en gros pour voir Nantes, quoi. Potentiellement, qui va jouer pour le maintien.
Nantes, ça fait quand même deux, trois ans, là où ils sont plus proches du bas que
du haut.
Que du haut.
C'est... Ouais, puis surtout la perte de Ludovic Blas, c'est vrai que ça peut faire du mal. Giroto aussi qui est parti en Arabie Saoudite. Bon, on suivra ça évidemment, cette saison de Ligue 1 qui s'annonce passionnante comme chaque saison. Donc voilà, ce premier match qui est prévu donc vendredi prochain à 21h, Lille-Nice, ça va être très intéressant. On va passer maintenant au basket. Faustin, tu vas nous faire une petite chronique sur les infos de cet été. Et puis bah voilà, je te laisse la main. On va commencer par le basket international avec l'équipe de France qui prépare la Coupe du Monde.
Ouais, c'est ça, parce que le match contre la Turquie n'était qu'un amuse-bouche la semaine dernière. Maintenant, place aux vraies confrontations avec d'abord le match contre le Monténégro qui s'est soulevé sur une victoire française 80-69 avec une première pour Rudy Gobert qui a mis son premier 3 points en carrière.
C'était vrai événement.
C'était magnifique. Toute la salle était debout plus qu'à la fin du match. C'était inattendu en plus de ça. Mais bon, voilà, à retenir surtout quand même la victoire tout en déroulant face à cette équipe du Monténégro. Et hier avait lieu un autre match, c'était contre le Venezuela, bien sûr. Okay. Victoire 86-67 dans un match, encore une fois, bien dominé, ce qui a permis à Vincent Collet de faire tourner en fin de match, de travailler des nouveaux systèmes ainsi qu'une zone défensive.
Et du coup, déjà, premier match, est-ce que tu sais quand c'est de Coupe du Monde?
C'est, il me semble que c'est le 26 août.
Ok, 26 août. Mais je suis en gros, fin août.
Fin août, voilà.
De toute façon, on aura le temps d'en reparler. On enchaîne sur la NBA.
Ouais.
Avec tout ce qui s'est passé autour.
Exactement, je vais démarrer par la draft. Parce qu'on l'attendait tous, et c'est durant la nuit du jeudi 22 juin qu'a eu lieu la draft NBA 2023 avec en tête d'affiche l'un des joueurs les plus attendus de l'histoire de la NBA après un certain LeBron James. Je parle bien sûr de Victor Wembanyama, dont je n'ai pas arrêté de parler tout au long de la saison avec ses exploits au Mets 92. Il a sans surprise été choisi par les Spurs en numéro 1. Je vous parlerai après de ses premières apparitions en Summer League. Le deuxième choix de ces drafts revenait à Charlotte et ils ont choisi Brandon Miller, un ailier de 2m03 provenant de l'université d'Alabama. Ce choix ne fait pas du tout l'unanimité chez les fans car la plupart considèrent que Scoot Anderson était un meilleur choix. Le meneur de l'équipe Ignite de G League a donc été drafté lui en troisième position par les Portland Trail Blazers. Le meneur d'1m88 a su faire ses preuves avec des highlights vraiment impressionnants pour le coup, en plus de ses bonnes perfs lors des matchs amicaux en début de saison contre les Mets 92 de Wembanyama. Ensuite, les picks 4 et 5 étaient attribués aux Rockets et aux Pistons qui ont respectivement choisi un des deux frères jumeaux, Thompson, qui, en plus des jumeaux, évoluait à la même équipe qui était l'Overtime Pro League. C'est une toute nouvelle ligue. Donc, Overtime, c'est en fait un média de basket et de sport américain en général qui a créé sa propre ligue. Okay. Et c'est les deux premiers joueurs qu'on voit venir de cette ligue en NBA. Donc, ils ont donc été draftés en 4e et en 5e.
Ok.
Voilà, maintenant, je vous parlais des Français qui ont été draftés. Et on n'a pas attendu très longtemps pour voir un deuxième Français après Victor Wembanyama, parce que c'est en 7e par les Pacers qui a été drafté Bilal Koulibaly. Le jeune meneur a su plaire au scout NBA qui venait voir à la base jouer Wemby dans la salle des Mets. Mais c'est en fait Bilal Koulibaly qui s'est révélé lui aussi par notamment des qualités défensives très surprenantes, qui ont fait ses preuves d'ailleurs en Summer League. Il a aussi été transféré dans la foulée à Washington. Le troisième français est drafté en 83e position. C'est par les Blazers. C'est Ryan Rupierre qui évoluait dans le championnat espoir français sous les couleurs de l'INSEP, donc. Et le dernier français de cette draft a été choisi en 44e position, pardon, aux Spurs, qui va donc rejoindre Wemby. Et c'était Sidi Sissoko, l'arrière français, évolué dans la même équipe que Scoot Anderson à Angie League, à Lignite, donc, et a tout approuvé pour prendre sa place, pardon, dans une équipe en reconstruction qu'est les Spurs.
Ouais, donc des bons résultats pour les Français.
Exactement. Je vais vous parler maintenant de la Summer League. Je vais parler uniquement de celle de Las Vegas, car c'est celle où il y a toutes les équipes et c'est donc la plus intéressante. Le but principal de la Summer League, c'est de voir les jeunes rookies fraîchement draftés. Donc c'est pour ça que je vais surtout me focaliser sur des joueurs et non des équipes, avec d'abord Wemby qui n'a joué que deux matchs avec les Spurs dans le but de le préserver, bien sûr. Son premier match avait lieu face à Charlotte et donc le numéro 2 de la draft, Brandon Miller. Malheureusement, Wemby a sorti un match assez moyen avec un pourcentage au shoot assez mauvais, et c'est en plus de ça fait dunker dessus pendant ce match. Mais il s'est très bien rattrapé lors de sa seconde rencontre contre les Blazers, mais sans Scoot Anderson, le numéro 3 de la draft, qui s'était blessé plus tôt dans la compétition. Voilà, avec un très bon match, plus de 20 points et des shoots magnifiques, tels qu'on a l'habitude d'en voir avec lui. Mais à mon avis, le Français qui a fait la plus forte impression durant cette Summer League, c'est Bilal Koulibaly, qui a sorti des contres juste magnifiques, avec notamment un où il va contrer un joueur contre la planche et attraper la balle par la même occasion. C'est vraiment du très haut niveau, et qui en plus de ça a mis un game winner en fin de match digne d'un joueur de grande expérience. C'est un bilan très positif que l'on peut faire de la Summer League pour ce joueur, donc. Un autre joueur qui était à suivre, c'est Chet Holmgren, car il a été drafté en 2022, mais n'a pas pu jouer un seul match de la saison, s'étant blessé. Il va donc effectuer sa saison rookie en même temps que la QV de 2023. Il a cependant fait une Summer League assez décevante à mon goût. À part ça, la Summer League reste une compétition avec une équipe vainqueur au bout. Et cette année, c'est les Cleveland Cavaliers qui ont été sacrés à Las Vegas, un trophée qui reste anecdotique et qui ne reste jamais dans la tête des fans très longtemps.
Et pour terminer, peut-être les transferts.
Ouais, c'est ça. Je vais vous parler des transferts et des resignatures qu'il y a eu pendant l'été, avec le feuilleton qui nous alimente tout cet été, et celui de Damien Lillard, car le meneur emblématique des Blazers a demandé son transfert et ne souhaite plus continuer avec son équipe de toujours, mais il ne veut pas laisser le choix aux Blazers, car qui décide de l'envoyer où ils veulent, car il souhaite uniquement rejoindre South Beach et l'équipe du Miami Heat. Cependant, ce que propose le Heat reste trop faible pour les Blazers, et pour le moment, rien n'a bougé. Lillard est toujours aux Blazers, mais souhaite toujours bouger. Un autre gros coup, c'est la resignature de Jaylen Brown à Boston, qui a signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA avec 303 millions sur 5 ans. C'est rien comparé à ce qu'on a vu au foot en Arabie Saoudite récemment, quand même. C'est ce que proposait. C'est beaucoup moins que ce que proposait c'était Al Hilal pour Mbappé. Enfin bref.
C'est d'autres dimensions.
Voilà, c'est ça. Mais ce record n'a pas tenu longtemps, car deux semaines plus tard, c'est Anthony Davis qui re-signe aux Lakers pour 186 millions sur 3 ans. Si on fait le calcul, en fait, ça faisait 60 millions par an pour Jaylen Brown et 62 millions par an pour Anthony Davis. Il récolte donc le plus gros contrat de
le magot.
Exactement, c'est ça. On a aussi eu un transfert de la NBA vers la France qui a fait parler de lui, oui. Car c'est le meneur anciennement All-Star Kemba Walker qui a été transféré du côté de Monaco. L'équipe risque vraiment d'être injouable l'année prochaine avec Mike James
qui a décidé de rester.
On l'espère. Une ligne arrière qui a un niveau NBA à mon avis.
Ouais,
vraiment.
Ça va être très intéressant. Dernière info.
Il en reste une. On a une pensée pour Evan Fournier, qui n'a toujours pas bougé des New York Knicks, où il ne joue quasiment plus, il n'a pas joué, il a joué vraiment très peu de matchs la saison dernière, alors que pourtant, il y a deux saisons, il était toujours là-bas. Il avait battu le record de 3 points sur une saison, Mais après, ça a changé de coach et il a décidé de ne plus être dans la rotation. Il attend donc patiemment d'être transféré pour tenter de retrouver du temps de jeu en NBA. Mais il ne peut rien faire car en NBA, c'est pas les joueurs qui décident, pas du tout même.
Et évidemment, mais on espère qu'il va s'épanouir sur la Coupe du Monde 2023. Merci Faustin pour ce point sur les infos de l'été niveau basket. On va enchaîner sans plus tarder puisque l'émission va se terminer dans quelques petites minutes. On va commencer par le cyclisme rapidement avec les mondiaux qui se sont déroulés à Glasgow dans un parcours assez compliqué mais surtout sous la pluie. C'est finalement le néerlandais Mathieu Van Der Poel qui l'a emporté devant le belge Wout Van Aert et le slovène Tadej Pogacar. On rappelle que Mathieu Van Der Poel est le petit-fils de Poupou Raymond Poulidor et que voilà, il a été sacré champion du monde pour la première fois. À noter également une interruption de course pendant 55 minutes à cause des manifestants. Côté français, on n'a pas vraiment vu les favoris au rendez-vous avec seulement une petite attaque de Julien Alaphilippe qui a finalement abandonné à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée. On enchaîne avec le judo et les Masters de Budapest qui avaient lieu ce week-end. Une compétition très intéressante, surtout qui marquait la fin de la saison du côté du judo. Deux titres côté bleu avec Roman Dico dans la catégorie des plus de 78 kilos et Amandine Bouchard dans les moins de 52. Médaille d'argent pour Julia Tolofoa qui a donc perdu contre Roman Dico. Madeleine Malonga termine donc deuxième dans les moins de 78 et Sarah Léonie Sizik chez les moins de 57. Et médaille de bronze pour Clarisse Agbayenou en moins 63 kilos. Fanny Estelle Posvit également au niveau du bronze. Et puis enfin le seul judoka français avec Alexis Mathieu en moins de 90. À noter que Teddy Riner qui était forfait pour ses masters a selon un plutôt bon article de l'équipe bon, qui est payant mais que je vous recommande qui fait un petit peu l'état des lieux pour les qualifs françaises au niveau du judo pour les JO 2024 apparemment il aurait sa place quasi assurée pour les jeux donc je sais pas si on a le temps de revenir deux secondes dessus Cédric, c'est vrai que on a souvent parlé ici quand Yann notamment était là, il y a une petite, parfois pour certains, une petite injustice parce que voilà, lui est sur un fauteuil dans sa catégorie au niveau des qualifs françaises.
Oui, bah les promotions passe-droit, hein,
c'est ça, il y a un peu de passe-droit pour
c'est, lui. Voilà,
c'est un bon, peu la star de.
C'est ta star, c'est ok, celui qui a peut-être le plus grand nombre de titres actuellement, mais bon. J'ai envie de dire, au vu des dernières sorties, il a pas été forcément mirobolant.
Ouais.
Alors, à la rigueur qu'il fasse pas, tu vois, les gros championnats, par exemple, il dit, bon, bah, allez, je fais cette année la passe des championnats du monde et je me concentre plus sur les majors, là, je sais plus comment ils appellent ça, les grands slams.
Ouais.
Tu vois, pour me ressourcer, pour retrouver un peu des sensations, je comprendrais. Mais là, hormis, bon, on voit de temps en temps des vidéos popées d'entraînement à droite à gauche, de stages, de choses comme ça. C'est vrai que ça pose la question parce que bon, il y a tous les mecs de sa catégorie qui triment tout au long de l'année dans les différents clubs,
ouais.
Qui n'ont pas forcément accès à l'équipe de France et que ça se trouve le mériterait. Puis on n'est pas à l'abri. On fait comment s'il se blesse maintenant?
Ouais,
et qu'il est indisponible dans un an, on sait pas combien de temps de blessure pour durer, tout ça. C'est un peu, j'ai envie de dire, la vision moderne du sport. Hein. Ouais. C'est l'aspect économique et l'image avant,
ouais.
au détriment du côté vraiment sportif. Quoi.
Et au niveau de l'équipe de France de para-judo, il y a eu deux podiums aujourd'hui pour cette première journée des championnats européens paralympiques avec Armindo Rodriguez en moins 60 kilos en J1 et Nathan Petit en moins 73 en J2. Et à noter effectivement que donc comme je le disais, ça va se disputer notamment des places entre pour les plus de 78 kilos chez les femmes entre Roman Dico et Tolofoa puisqu'on a vu elles ont fait finale toutes les deux en moins 78 kilos Chomeo, on aura un duel Chomeo Malonga et en moins 70 Marie-Ève Gaillet contre Margot Pino, donc voilà, ça va être intéressant de suivre ça sur les échéances qui arrivent sur l'année prochaine.
Au vu du JO, ce sera sûrement les derniers JO pour beaucoup de personnes en
c'est
plus.
Ça, ouais. Donc on suivra cette génération-là. Ouais. Tout au long de l'année, promis Yann, on essaiera de couvrir un peu plus de judo. Enfin, petite dernière info avant de clôturer l'émission. Il y a eu un test match en rugby pour l'équipe de France qui a été perdu donc 25-21 face à l'Écosse alors que les Bleus menaient 21-8 à la mi-temps. Pas d'inquiétude évidemment pour ce mondial puisque c'était l'équipe bis qui était sur le terrain.
Ouais, puis revanche dès ce week-end je crois.
C'est ça. On va donc clôturer cette émission. On vous dit à la semaine prochaine. Merci messieurs de nous avoir accompagnés donc dans cette heure de sport sur Radio G. On vous dit donc à la semaine prochaine 20h 21h et puis on vous souhaite une bonne soirée sur Radio G.